Europe 1. Europe 1.
15h, 16h. Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Nous sommes aux États-Unis le mardi 8 novembre 1960. La présidentielle américaine est serrée, mais elle finit par rendre son verdict. Le démocrate John Fitzgerald Kennedy l'emporte d'un souffle sur le républicain Richard Nixon. À 43 ans à peine, JFK s'apprête à devenir le 35e et plus jeune président de l'histoire américaine. Mais le système américain étant ce qu'il est, la passation de pouvoir n'est prévue que 3 mois plus tard, en janvier 1961. Pour le président élu, la pause est salutaire. Si JFK est fatigué, c'est la rançon des mois passés à sillonner les différents états du pays pour mener campagne. Il s'apprête aussi à être père pour la deuxième fois. Après sa fille Caroline, sa femme Jackie donne naissance le 25 novembre 1960 à un nouveau-né qui porte le même prénom que lui, John. Un petit garçon que les journalistes français vont très vite surnommer John John. Aussi, les Kennedy décident-ils de partir en Floride pour décompresser du côté de Palm Beach sans savoir qu'un terrible danger les menace. L'élection du jeune démocrate n'a pas fait que des heureux. En pleine guerre froide, certains le considèrent comme un dangereux communiste. C'est le cas du septuagénaire Richard Paul Pavlik. Cet ancien postier compte bien agir pour sauver une Amérique qu'il estime en danger de mort. Assis au volant de sa vieille Buick, il patiente devant la maison de villégiature des Kennedy, bien décidé à se faire sauter en jetant sa voiture bourrée d'explosifs contre celle du nouveau président. Le 11 décembre, vers 10h, le portail s'ouvre. Pavlik enclenche la première, mais s'arrête brutalement. JFK est au volant, mais il n'est pas seul. Jackie est à ses côtés et elle porte John Kennedy Jr. dans ses bras. Tuer sa femme passe encore, mais réduire un nourrisson en poussière, impossible. La rage au cœur, l'homme renonce pour ce jour-là. Sa chance est passée et il est finalement arrêté avant de pouvoir mener une nouvelle tentative. Sans le savoir, John Kennedy Jr. vient de sauver la vie de son père, ce qui n'empêchera pas la tragédie de s'inviter dans son existence, qui sera malheureusement, et comme celle de son père, trop brève. 36 ans après l'assassinat de JFK à Dallas, John Kennedy Jr. va mourir et son épouse Caroline Bessette avec lui. Comme si la malédiction des Kennedy avait voulu tuer à nouveau, à une génération d'écart, en frappant Caroline et John, un couple qui fut à sa manière l'un des emblèmes de l'Amérique des années 80, aussi glamour que celui formé avant eux par JFK et Jackie Kennedy. Si la fin est tragique, l'enfance de John a, elle, tout d'un conte de fées, même si le petit garçon est trop jeune pour s'en rendre compte. Vivre à la Maison Blanche n'est pas tout à fait une existence commune, même lorsqu'on appartient à une famille aussi riche que le clan Kennedy et que votre père a été, pour ainsi dire, programmé pour exercer le pouvoir dès l'enfance. Car oui, le père de JFK, Joe Kennedy, richissime patriarche, a tout mis en œuvre pour que Jack, comme on le surnomme, et son frère Robert accèdent un jour aux plus hautes fonctions. Petit à petit, la Maison-Blanche s'habitue à entendre des enfants rire dans les couloirs. Après des décennies d'occupation par des hommes qui avaient l'âge d'être grand-père, la demeure des présidents semble connaître une nouvelle jeunesse. Pour profiter de ses enfants, John et sa sœur aînée Caroline, JFK les laisse quelquefois pénétrer dans le sein des saints, ce fameux bureau ovale où le sort du monde se joue parfois. Et il laisse aussi les photographes immortaliser ces instants. À l'instar de cette photo devenue célèbre qui montre John en culotte courte et en équilibre précaire. Le petit garçon apprend tout juste à marcher et son père l'applaudit, assis sur une chaise à deux pas du fameux Resolute Desk, le bureau présidentiel qui est à l'origine un cadeau de la reine Victoria. Tout n'est pas innocent dans ce cliché publié par la presse, bien sûr. À la minute où il est né, comme sa grande sœur, John John est devenu un outil de communication politique comme un autre, le symbole d'une époque joyeuse, détendue, riche et florissante. L'enfant incarne l'héritier idéal d'un couple glamour en diable, le visage de l'Amérique des 60s tel qu'on la rêve. Le petit garçon, qui grandit littéralement sous l'œil des appareils photos, des flashs et des caméras, en gardera un rapport aux médias que sa future épouse Caroline n'acceptera et ne comprendra jamais. Caroline, à cette époque, n'est pas encore née. Elle ne voit le jour qu'en 1966 sur la côte Est, du côté de New York, et son enfance ne ressemble pas et de loin à celle de l'enfant star dont elle tombera plus tard amoureuse. La petite fille ne grandit pas dans un milieu modeste pour autant. Non, non. Son père William est architecte, sa mère Anne dirige les écoles publiques de New York. Son seul point commun avec John, c'est qu'elle a une sœur aînée, ou plutôt deux, Lauren et Lisa, des jumelles. Sa famille fait partie de la gentry, mais on est très très loin de l'opulence des Kennedy, dont la fortune, d'ailleurs un peu louche, a pris des proportions inconcevables depuis les années 20. Pourtant, derrière le mitraillage des photographes, une autre réalité se cache. JFK est l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Son agenda est surchargé, son temps est compté. John et sa sœur grandissent le plus souvent seuls, servis par une armada de gouvernantes, de domestiques, de nounous, mais sans beaucoup voir leurs parents. D'autant que le ménage Kennedy souffre aussi du tempérament notoirement volage du jeune président. Plombé par ses infidélités répétées, le couple bat parfois de l'aile, mais il tient bon. Contrairement à celui que forment les parents de Caroline Bessett, qui passera l'essentiel de son enfance avec sa mère au lendemain d'une séparation difficile. Mais chez les Kennedy, la souffrance a des racines bien plus profondes qu'un adultère ou un divorce. Avant de donner naissance à John et avant lui à sa sœur, le couple présidentiel a connu l'invraisemblable douleur de perdre un premier enfant, Arabella, morte à la naissance. Et 3 ans après celle de John, le couple traverse un autre drame en août 63, avec la mort de Patrick, un petit prématuré qui ne survit que 2 jours. La mort pèse déjà sur le clan Kennedy. Et le 22 novembre 1963, du côté de Dallas, la faucheuse frappe à nouveau. À cette date, la nouvelle campagne présidentielle s'annonce et John Fitzgerald Kennedy est en tournée avec Jackie dans la capitale du Texas pour y lever des fonds. Mais à 12h30 précise, JFK s'effondre dans sa limousine, touché par 2 fois par les balles de Lee Harvey Oswald, tirées depuis le 5e étage du dépôt de livres de la Dealey Plaza. À 12h52, la mort du président est officiellement constatée. À 13h30, l'Amérique apprend qu'elle vient de perdre son président. John, lui, vient de perdre son papa. Le 25 novembre, jour des funérailles du président, c'est une image, encore une, qui saisit le monde entier paralysé par l'émotion. Celle de John Kennedy Jr. qui lâche un instant la main de sa mère pour adresser un salut militaire au cercueil de son père qui passe devant lui. Le petit garçon, qui a très exactement 3 ans ce jour-là, connaît le pire des anniversaires qu'un enfant puisse connaître. Dan Farrell, le photographe qui a pris le fameux cliché, résume d'une phrase ce qui ressort de la minuscule silhouette du garçonnet qui paraît seul au monde, au milieu de la foule qui l'entoure. C'est la chose la plus triste que j'ai vue de ma vie. Au lendemain de l'enterrement de JFK et de cette image qui a ému le monde entier, le conte de fées vire allègre. Sa désormais veuve, Jackie Kennedy, doit céder sa place à la Maison Blanche et à un couple habitué des lieux, le vice-président Lyndon B. Johnson, désormais à la tête des États-Unis et de son épouse Claudia. L'ancienne First Lady se réfugie à New York avec ses enfants, Caroline et John, dans l'espoir de leur offrir une enfance un peu moins exposée. La vie semble reprendre son cours, mais la destinée s'acharne. Le 5 juin 1968, Robert Kennedy s'apprête à célébrer sa victoire aux primaires démocrates de Californie quand un militant de la cause palestinienne lui tire 2 balles dans la tête à bout portant. 5 ans après JFK, c'est son frère qui tombe sous les balles d'un assassin. Pour Jackie Kennedy, c'est trop de sang, trop de larmes, trop d'angoisse aussi. Elle a ces mots durs. « Je déteste ce pays, je méprise l'Amérique, je ne veux plus que mes enfants vivent ici. S'ils tuent les Kennedy, mes enfants sont les premières cibles. Je veux quitter ce pays. » Quelques mois plus tard, celle dont tout le monde pensait qu'elle finirait son existence dans le culte de son mari mort se remarie avec un armateur grec, Aristote Onassis. Jackie, désormais Onassis, s'installe en Grèce un temps avant de regagner finalement New York et le pays qu'elle avait fini par mépriser quelques années plus tard avec ses enfants. En 1980, l'année de ses 20 ans, John Kennedy n'est plus le petit garçon dont le salut a fait pleurer l'Amérique. C'est un athlète au corps dessiné par la pratique du kayak et du frisbee, un risque-tout dingue de sport qui dépasse le 1m90 pour 90 kg de muscles et de testostérone. John est magnifique, magnétique, célèbre et riche. Pour citer notre invitée Stéphanie Desor, qui raconte son destin dans son livre « Il n'est pas beau, il est pire ». D'ailleurs, les filles tombent comme des mouches et comme son père avant lui, John Kennedy ne se prive pas de les attraper au vol. Sa future épouse, Caroline Bessett, lui donne la réplique avec un léger décalage puisque la jeune fille n'a encore que 14 ans en 1980. Mais son port de tête et son élégance altière font rapidement des ravages dans les années qui suivent comme son sourire immense et son regard bleu glacier, semblant venu d'un autre monde. À peu près à l'époque où John boucle sa thèse en droit, Caroline commence ses études à la Boston University. Avec son physique de mannequin, elle jouit d'un charme tout à la fois froid et incandescent qui jette les hommes à ses genoux. Caroline n'a que l'embarras du choix. Et son regard capte celui de John Cullen, qui sera bientôt l'une des figures de la LNH, la Ligue professionnelle de hockey. Mais les liaisons dangereuses ne sont jamais loin. Caroline trompe son amant avec l'un de ses coéquipiers. La gentry n'apprécie pas, on jase, et la réputation de Caroline se fait sulfureuse, ce qui lui vaut les remontrances de sa mère qui serre les cordons de la bourse. Caroline doit travailler, et elle s'en tire à merveille. Après avoir tenté le mannequinat, elle se fait engager comme vendeuse pour le magasin Calvin Klein de Chestnut Hill à Newton dans le Massachusetts. Sa grâce, son assurance et son style font le reste. Et il ne faut pas très longtemps pour gravir les échelons à vue d'œil, à Boston puis à New York, où elle dirige bien vite la publicité du magasin le plus emblématique de la marque, celui qui accueille des stars du petit écran comme Diane Sawyer ou des actrices comme Annette Bening. Et en parlant de stars, John Kennedy, de son côté, ne perd pas de temps non plus. Sa fortune, sa notoriété, son nom et son physique lui permettent de mener une existence qui pourrait paraître superficielle. Son clan tente régulièrement de le ramener à la politique, mais John se contente du service minimum. Un gala de charité par-ci, une montée sur scène par-là pour soutenir l'un de ces innombrables candidats démocrates que le clan Kennedy produit à des rythmes industriels, et c'est à peu près tout. Quand il ne travaille pas pour le bureau du procureur de New York, Kennedy Jr. se promène de tapis rouge et de restaurant chic en club à la mode, toujours en bonne compagnie. Cindy Crawford lui tombe dans les bras, Madonna aussi, mais celle qui est alors l'épouse de Sean Penn a le malheur de ne pas plaire à Jackie Kennedy et l'histoire tourne en eau de boudin. Qu'à cela ne tienne, John se console dans les bras d'une immense blonde, ce n'est pas Caroline, pas encore, c'est Daryl Hannah, la réplicante de Blade Runner et la sirène de Splash. D'autres noms s'affichent régulièrement à la une des tabloïds, dont ceux de Grace Jones, de Julia Roberts et de Sarah Jessica Parker, la future Carrie Bradshaw de Sex and the City. C'est sans doute elle qui résume le mieux ce qui va avec le fait de porter le nom de Kennedy. Après sa rupture avec John, elle déclare que sortir avec lui revient à sortir avec un homme qui appartient au domaine public. En mai 1994, sa mère, Jackie Kennedy, meurt à l'âge de 64 ans. Un an plus tard, son fils en a lui 35, quand, en train de lacer ses baskets devant chez lui, il croise une blonde incandescente dont le regard polaire le liquéfie sur place. « Who that girl ? Qui est cette fille ?» demande John à la cantonade. « Cette fille, vous l'avez compris, c'est Caroline Bessette. » Et le coup de foudre qui suit marque le début de l'une des histoires d'amour les plus météoriques et les plus tragiques aussi, des années 90. Lorsqu'il rencontre Caroline en 1995, le trentenaire vient de lancer George, un mensuel qui compte bien dépoussiérer la presse magazine en mélangeant la mode, le people et la politique. Les magazines John et Caroline en font aussi la couverture, souvent malgré eux. Le début de leur histoire attire les paparazzi comme la confiture attire les mouches. Lorsqu'on les surprend en train de se baigner en amoureux sur une plage de Nouvelle-Angleterre, le monde entier se pose la même question que John, qui est cette fille ? Ou pour citer le toujours très élégant Boston Globe, qui est la fille en string ? Cette fille qui vient de mettre à genoux le plus beau parti de l'Amérique. Chacun de leur côté, les deux amants crèvent déjà l'écran. Ensemble, le couple est le cliché parfait dans la catégorie « rich, famous and beautiful ». Riche, beau et célèbre. Mais la sœur aînée de John, l'autre Caroline, fait sans doute partie de ceux qui voit déjà se dessiner les premières fissures d'un couple sous tension. Les deux Carolines ne s'apprécient guère et passeront les années qui suivent à se regarder en chien de faïence. Ce qui surprend le plus le clan Kennedy, c'est que tout va très vite. La rencontre de John et de Caroline date donc du début de l'année 95. En avril, Caroline emménage dans le loft de John au cœur de Manhattan. Le 4 juillet, John demande Caroline Bessette en mariage. Caroline le sait. Intégrer le clan Kennedy a un prix. La jeune femme n'a jamais craint la notoriété, mais ce qui l'attend se classe au niveau supérieur. Le couple ne peut pas faire un pas dehors sans être suivi. La frénésie qui les entoure n'a sans doute qu'un équivalent dans le monde, en Grande-Bretagne, celle que subit Lady Diana Spencer, la princesse de Galles. Tout le monde n'est pas armé pour supporter une pression pareille et Caroline, bientôt Kennedy, en souffre assez pour chercher des compensations ailleurs. Son insouciance perdue, elle semble la chercher dans la drogue et l'alcool, un régime qui ne calme pas sa jalousie récurrente. Le plus beau cadeau que John puisse faire à Caroline dans ces conditions, c'est un mariage secret et discret. La tâche relève, pour ainsi dire, de l'impossible. Et pourtant, l'argent peut tout, y compris permettre d'échapper quelques heures à la furie médiatique qui entoure le fils de JFK. Dans la biographie qu'elle consacre au couple, Stéphanie Desors relève que l'organisation du mariage vire à l'opération militaire. L'avocat de John fait signer des accords de confidentialité à toutes les personnes concernées. Traiteurs, chauffeurs, capitaines de ferry, employés de l'hôtel, chefs de la sécurité, tous sont tenus au secret. Ils sont mobilisés mais ignorent pour qui et pourquoi. Le nom de code de l'opération est D-Day. La date est inconnue, le lieu une île mystérieuse dont on protégera les plages et les marinas. Et ça marche. Le soir du 21 septembre 1996, aucun journaliste indésirable n'est de la noce qui se déroule sur l'île isolée de Cumberland en Géorgie, à la lueur des bougies dans une minuscule chapelle en bois. Cela croit, la cérémonie commence avec du retard pour la bonne raison que Caroline a eu un peu de mal à passer sa robe de mariée, mais l'attente en valait la peine. La mariée est à couper le souffle. Quelle robe ! Si on en parle encore aujourd'hui, c'est pas par hasard. Elle a été dessinée par un créateur de Cerruti encore peu connu, Narciso Rodriguez. Le jeune homme s'est surpassé avec cette longue robe moulante en crêpe de soie blanc-perle d'une valeur de 40 000 dollars tout de même, mais c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Si le mariage est splendide, les années suivantes sont plus difficiles. Pour le business déjà, le magazine George voit ses ventes décliner, John a beau se battre, son journal bat de l'aile au moment où son couple traverse une série de crises profondes. Kennedy Jr. a du mal à supporter la jalousie de son épouse, qui lutte par ailleurs contre son addiction à la cocaïne. Caroline, elle, se plaint régulièrement de ne pas pouvoir faire un pas dehors sans être suivie par une nuée de photographes qui, depuis le mariage, les ont vite retrouvés. Pour évacuer la pression, John trouve, lui, refuge dans une activité qui l'envoie aussi en l'air, mais d'une bien plus jolie manière. L'aviation, une passion qu'il entretient en obtenant sa licence de pilote en 1998. À 39 ans, ce n'est pas l'activité la plus risquée que John a pratiquée, mais c'est pourtant celle qui va se solder par un drame. Le soir du 16 juillet 1999, John Kennedy décolle du New Jersey pour se rendre au mariage de sa cousine Rory dans le Massachusetts. Le vol qui survole l'Atlantique ne doit durer qu'une heure et personne ne s'inquiète de voir le petit Piper Saratoga décollé à la tombée de la nuit avec John aux commandes, accompagné de Caroline et de sa sœur, Lorraine Bessett. Mais la brume désoriente John, qui finit par s'égarer avant de perdre le contrôle de l'appareil. Vers 21h40, le Piper s'écrase dans l'océan, devenu aussi dur que la pierre, au terme d'une chute vertigineuse d'une vingtaine de secondes. À cette vitesse, John, Caroline et Lorraine meurent instantanément. À terre, il faudra plusieurs heures pour qu'on accepte l'inévitable et plusieurs jours avant que l'épave ne soit découverte. Ce que toute l'Amérique redoutait est arrivé. Le clan Kennedy vient de vivre une nouvelle tragédie qui réveille les rumeurs qui courent depuis si longtemps sur la dynastie maudite. Il faut bien avouer que les tenants d'une malédiction qui pèserait sur la famille Kennedy ont toujours eu du grain à moudre. La mort de John et de Caroline en 1999 à 39 et 33 ans n'est jamais qu'un épisode de plus au milieu d'une longue série de drames et de scandales qui s'étirent sur plusieurs décennies. À l'assassinat de JFK et de son frère Robert, il faut ajouter le triste destin d'une des sœurs Kennedy, Rosemary, victime à 23 ans d'une lobotomie qui l'a laissée handicapée mentale pour le restant de ses jours. Et ce n'est pas terminé. David Kennedy, l'un des 11 fils de Robert, est mort d'une overdose de cocaïne en 1984. Et plus récemment, sa petite cousine, Saoirse, a été tuée par la drogue en 2019. Maeve Kennedy, une petite nièce de JFK, s'est-elle noyée en 2020 par accident avec son fils de 8 ans dans la baie de Chesapeake. Cette triste liste fait que le nom des Kennedy n'a jamais disparu des radars aux États-Unis. Et la meilleure preuve en est que John Kennedy Jr. peut se vanter d'avoir rejoint la longue liste de ces célébrités que certains croient toujours vivantes, quelque part, avec Elvis Presley et Marilyn Monroe. Voici 3 ans, une étrange histoire est venue témoigner de cette fascination intacte. Le 2 novembre 2021, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Dallas, à l'endroit précis où JFK avait trouvé la mort en 1963. Tous en étaient convaincus. à 12h29, soit l'heure exacte du premier tir, John Kennedy ferait soudain son apparition, 22 ans après sa disparition, au large de la côte est américaine. Bon, visiblement, ils l'attendent encore. Mais aussi étrange que la théorie puisse paraître, elle n'est ni la seule ni la première. Le 4 juillet 2020, déjà jour de la fête nationale aux États-Unis, la rumeur avait couru que John était sorti de sa tombe pour arpenter les sommets du mont Rushmore. D'autres bruits, plus étonnants encore, avaient couru. En s'appuyant sur quelques photographies, certains avaient même affirmé que l'un des gardes du corps de Donald Trump n'était autre que John Kennedy Jr., lui-même, mais le crâne rasé. Évidemment, personne n'est apparu par miracle et les tenants de cette curieuse prophétie en sont restés pour leurs frais. John Kennedy, dont le corps a été retrouvé, autopsié, est bel et bien mort et son épouse Caroline aussi. Sa sœur Caroline Kennedy également reste bien aujourd'hui le dernier enfant vivant de JFK et de Jackie Kennedy. Mais comme toutes les théories du complot, même les plus improbables, celle-ci en dit long sur la puissance d'un nom à jamais inscrit dans la mythologie de l'Amérique contemporaine. Et Caroline et John, l'autre couple Kennedy, malgré leur court destin, n'y sont clairement pas pour rien.